Des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Academy.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Marianne durant la case.
Boutros Boutros-Rali, vous êtes correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Nous sommes très honorés de votre présence au micro de Canal Academy, la radio sur Internet des académies. Vous avez eu la gentillesse de venir nous parler de votre parcours et de l'Égypte dans le cadre de notre programme spécial consacré à votre pays. Boutros Boutros-Rali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes connu du grand public pour avoir été l'un des principaux négociateurs du traité de paix entre l'Égypte et Israël, signé par Anwar el Sadat et Menachem Begin en 1979. Et vous êtes également connu pour le mandat que vous avez assuré à l'Organisation des Nations Unies en tant que secrétaire général entre 1992 et 1996. Puis, vous placez vos talents de diplomate au service de la francophonie. Et en 1998, vous êtes en effet élu premier secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et poursuivant sur cette voie, vous êtes depuis 2004 vice-président du Haut Conseil de la francophonie à Paris. Tout au long de votre carrière, vous avez participé à de nombreuses conférences, publié de nombreux ouvrages. Et parmi vos sujets de prédilection, la décolonisation, la situation au Moyen-Orient, le rôle de l'Organisation des Nations Unies, les droits de l'homme, le développement économique et social, la mondialisation et la francophonie. Vous avez rédigé de nombreux articles en anglais, en français, en arabe, sur les affaires régionales, internationales, sur le droit bien sûr. Parmi vos ouvrages, citons notamment le « Sur le chemin de Jérusalem »,« Mes années à la maison de verre », En attendant la prochaine lune, sont des carnets, 1997-2002, et puis publié tout récemment, 60 ans de conflit israélo-arabe, témoignage pour l'histoire. Je vous propose, à travers votre parcours de diplomate égyptien et votre histoire personnelle, de nous dire ce que représente l'Égypte à vos yeux. Mais d'abord, quelle relation entretenez-vous avec votre pays? Vous êtes né au Caire en 1922.
J'ai fait mes études en Égypte, j'ai obtenu mes deux bachots égyptiens et en même temps mes deux bachots français. Et puis j'ai été à la faculté de droit de l'université du Caire où j'ai terminé une licence en droit. Puis j'ai voulu continuer mes études et j'ai été à Paris, c'était la tradition à ce moment, faire un doctorat d'État. Et je suis revenu et j'ai commencé à enseigner à l'université du Caire en octobre 49.
Vous appartenez au milieu de la grande bourgeoisie égyptienne qui a servi l'État pendant des générations. Votre grand-père était Premier ministre et je crois était un modèle pour vous. Votre mère était très liée à la première épouse du roi Fouad. Vous connaissiez les palais du Caire et enfant, vous rêviez de devenir politicien. Et quand on voulait devenir politicien en Égypte, à ce moment-là, dites-vous dans votre ouvrage « Démocratiser la mondialisation », il était d'usage de faire des études de droit et ces années de formation que vous avez commencé au Caire, que vous avez complété à Paris. Vous êtes resté 3 ans à Paris. Être étudiant égyptien dans le Paris de l'après-guerre, c'était difficile?
Non, je pense que c'était une tradition. C'était une tradition que pour être politicien en Égypte, il faut être juriste. Évidemment, vous aviez l'aspect des techniciens qui pensaient que les problèmes de l'eau en Égypte sont beaucoup plus importants que les problèmes de la constitution ou de le problème de l'indépendance du judiciaire. Mais je pense que la tradition était d'accorder une très grande importance au côté juridique. Donc vous aviez les responsables égyptiens qui, même si au début ils n'avaient pas les spécialisations de droit, allaient en France faire des études pour revenir avec une licence en droit ou un doctorat en droit. Donc la tradition était que pour appartenir à la classe politique, il fallait être d'abord un juriste. D'où l'influence de juristes francophones. Très souvent, nous avions des Belges. Vous aviez un Belge qui était le conseiller aux affaires étrangères. on faisait appel lorsqu'il y avait des conflits sur l'interprétation de la Constitution entre le roi et le parti politique au pouvoir, qui était à ce moment le Waft avec Tsar Zaghloul. À ce moment, on faisait appel à un juriste belge. Pourquoi belge? Dans la mesure où la France était une grande puissance et il était important de s'adresser à une petite puissance qui est plus ou moins neutre, qui serait plus objectif dans son jugement, dans le conflit qui éclatait sur l'interprétation des textes de la Constitution.
Dans ces années-là, qu'est-ce qui vous a poussé vers l'étude du droit international? Le contexte historique?
Ce qui m'a poussé dans les études du droit international, ça a été... Évidemment, c'était une période où l'Égypte luttait pour obtenir son indépendance. C'était une période où l'Égypte est arrivée à obtenir, à se faire admettre à l'Organisation des Nations Unies. Donc cet effort de l'Égypte pour compléter son indépendance, pour obtenir le départ des troupes britanniques qui occupaient le pays... faisait qu'on s'intéressait beaucoup à l'élément de politique étrangère.
L'Égypte était indépendante depuis 1936, mais le traité anglo-égyptien...
Elle n'était vraiment pas indépendante parce qu'il y avait une présence britannique, il y avait des troupes britanniques qui se trouvaient au milieu du Caire, enfin qui avaient leur caserne au milieu du Caire. Donc l'Égypte voulait compléter son indépendance et l'admission de l'Égypte aux Nations Unies était un premier pas. L'Égypte s'intéressait à tout ce qui était droit international pour pouvoir promouvoir son indépendance. Donc c'est ce qui m'a amené à m'intéresser au droit international. J'ai fait une thèse de doctorat
sur quel
avec
sujet?
Le professeur Charles Rousseau sur les ententes régionales.
Déjà. Donc, vous êtes docteur en droit international en 1949, puis à votre retour au Caire, justement, vous allez enseigner à la faculté de droit du Caire pendant 17 ans. Pendant cette période, comment avez-vous accueilli le coup d'État des officiers libres en 1952, qui renverse la monarchie égyptienne et fonde la République égyptienne? En fait, comment cette révolution fut-elle accueillie dans le milieu universitaire qui était le vôtre?
Bien, au début, il y a eu une satisfaction dans la mesure où on pensait que c'était une sorte de renouveau, de révolution culturelle, révolution politique, économique et sociale, puisque la fin du règne du roi Farouk exprimait une période de décadence. Mais très vite, on s'est rendu compte que les militaires voulaient s'introduire dans les milieux universitaires. Vous aviez des milieux universitaires qui étaient divisés. Certains disaient qu'il faut collaborer avec les militaires pour les amener à comprendre la vie politique, à faire leur éducation. Nous avons même créé à ce moment un institut des sciences politiques.
Que vous avez dirigé?
En 53, je suppose. Et cet institut... était composé de 50% d'officiers qui venaient faire leur éducation politique. Donc, les universitaires, il y avait ceux qui étaient contre le régime, il y avait d'autres qui pensaient qu'il serait intéressant d'aider les militaires à faire leur éducation politique, à les amener à s'intéresser à l'architecture politique de l'Égypte. C'est à ce titre qu'il y a eu un effort de la part des universitaires pour collaborer avec les militaires.
Alors, il y a un autre grand événement historique dans l'histoire de l'Égypte, qu'a représenté pour vous et pour les Égyptiens la nationalisation de la compagnie du canal de Suez le 26 juillet 1956, événement historique fondateur dans l'histoire contemporaine de l'Égypte. Est-ce que vous vous souvenez, sûrement, probablement, de l'annonce ce jour-là de la compagnie du canal de Suez?
Je pense que la nationalisation du canal de Suez a eu un énorme succès avec l'opinion publique, dans la mesure où ça mettait fin à une période de néocolonialisme. Vous savez, l'Égypte était très internationale. Elle était internationale dans la mesure où vous aviez une présence française et une présence britannique. Vous aviez des colonies étrangères extrêmement nombreuses, pour ne prendre qu'un cas, la municipalité d'Alexandrie oui. était à 50% composée d'étrangers et 50% d'Égyptiens. Oui. Vous aviez une colonie grecque, une colonie italienne, vous aviez des colonies étrangères. Vous aviez ensuite ce phénomène assez particulier qui est le phénomène des tribunaux mixtes,
oui.
dans lequel vous aviez tous les procès entre étrangers et égyptiens, n'étaient pas jugés par les tribunaux qu'ils appelaient indigènes, mais par les tribunaux mixtes qui étaient composés de juges appartenant à différentes nationalités. Nous avions le président des tribunaux mixtes d'Alexandrie, qui était un Américain, Jasper Brinton, mm-hmm. qui était avec nous à la Société égyptienne de droit international. Donc c'est comme ça que j'ai connu ces juges. Mais je veux dire par là que vous aviez une dimension internationale dans le pays qui était extrêmement importante et qui correspond à la mondialisation d'aujourd'hui.
Oui.
Mais malheureusement, cette présence internationale, que ce soit le canal de Suez sous influence française, que ce soit l'armée égyptienne sous influence anglaise, que ce soit la police sous influence anglaise, que ce soit les problèmes de l'eau sous influence anglaise, dans la mesure où le Soudan anglo-égyptien était déjà un milieu de collaboration entre l'Angleterre et l'Égypte, tout ceci existait au moment où vous aviez une période de décolonisation. Si bien que l'équipe des militaires, et avant même l'équipe des militaires, les politiciens égyptiens, ont décolonisé l'Égypte et la nationalisation du canal de Suez doit se placer dans le cadre de la décolonisation de l'Égypte. Si bien que l'opinion publique était très satisfaite. L'élite égyptienne, qui n'était pas satisfaite de la présence des militaires et qui espérait pouvoir s'en débarrasser au plus vite, au contraire, elle, dans une certaine mesure, espérait que c'était une aventure, cette intervention anglo-américaine, anglo-israélo-américaine, aurait provoqué la chute du régime militaire et aurait donné naissance de nouveau au retour aux anciens partis politiques. Mais ils étaient assez limités, ceux qui pensaient de cette façon. Je pense que la grande majorité des Égyptiens étaient très en faveur de la décolonisation, donc en faveur de la nationalisation du canal de Suez. Alors là, il faut rappeler que la presse internationale a tout de suite présenté la nationalisation du canal de Suez comme un acte extrêmement dangereux, comme pouvant représenter une incapacité des autorités égyptiennes à gérer le canal de Suez. Ils n'ont pas la capacité de le gérer. Et ensuite, dire que le canal de Suez est un canal international. Et là, je raconte une histoire très personnelle. Le ministère des Affaires étrangères me téléphone et me demande, je vous en supplie, nous savons que vous avez une très belle bibliothèque personnelle, est-ce que vous pourrez nous trouver l'accord de Constantinople ? Je lui dis oui, et je trouve le livre d'un professeur américain, Hurwitz, que je connaissais, qui était avec qui j'avais collaboré quand j'étais aux États-Unis en 54-55, et qui reproduisait tous les traités, et reproduisait le traité de Constantinople. Mais pour des soucis de rendre le texte plus complet, il avait supprimé le préambule. Et alors j'ai donné le texte tel que je l'avais, sans le préambule. Et le lendemain, Anthony Eden fait une déclaration, la mauvaise foi des Égyptiens.
Qui était le ministre des Affaires étrangères.
C'est le préambule qui donne la dimension internationale du canal de Suez. Évidemment, à ce moment, c'était notre ignorance, notre incapacité de trouver dans les archives du ministère des Affaires étrangères le texte de la Convention de Constantinople. Mais donc, vous aviez deux écoles. Une école qui vous disait le canal de Suez est un canal international. Et ça faisait partie de la colonisation sui generis de l'Égypte. Et une autre partie qui disait le canal de Suez appartient à l'Égypte, et la preuve, c'est que nous le nationalisons.
Je vous propose, Monsieur Boutros Boutros-Ghali, de marquer une courte pause musicale, et j'invite nos auditeurs à nous retrouver dans quelques instants pour la suite de notre entretien.
النوم تعال سكت جهال النوم تعال سكت جهال النوم تعال ارضي الصغار كان جيت بالصباح بدي كرشين كان جيت بالليل بهديك شنين النوم تعال سكت جهال النوم تعال سكت الجهال تكبر لي تكون كبير لي مدير تكبر تكون لي سفير
سكت الجهال النوم تعال الأرض الصغار كان جيت بالليل بديك شنين كان جيت بالليل بديك شنين النوم تعال سكت الجهال النوم تعال سكت الجهال
Schönen Vögelchen, Garten und Wiese verstummt, auch nicht ein Bändchen mehr summt. Luna mit siebenem Schein, Gurke zum Fenster herein, schlafe beim silbernen Schein. Schlafe, mein Prinzen, schlafe ein, schlafe ein, schlafe ein.
Nous retrouvons Boutros Boutros-Ghali pour nous parler de son action diplomatique et de l'Égypte des années 70. Boutros Boutros-Ghali, vous avez eu le privilège d'être un témoin et un acteur de l'élaboration du traité de paix entre l'Égypte et Israël. Vous avez eu en quelque sorte rendez-vous avec l'histoire en étant au poste clé de ministre des Affaires étrangères. En 1977, le président Anwar el-Sadat surprend tout le monde en se rendant à Jérusalem pour rencontrer Menahem Begin. Et Boutros Boutros-Ghali, vous faites partie de ce voyage historique. Racontez-nous, ce n'est que quelques jours avant le départ pour Jérusalem, alors qu'il n'est pas annoncé, qu'on vous demande de rédiger le discours que Sadat lira devant la Knesset.
Je voudrais mentionner quand même quelque chose d'important. Avant l'invitation que m'a faite le président Sadat de participer à la délégation qui allait aller à Jérusalem, j'avais été nommé membre du bureau politique de l'Union socialiste, qui était l'unique parti au pouvoir en Égypte. Et ma politique a été de m'occuper des affaires étrangères du parti et une ouverture sur le monde extérieur. Et ceci va dominer toute ma pensée politique. L'Égypte doit, après s'être décolonisée, après avoir éliminé la présence étrangère, doit au contraire s'ouvrir et éviter de se renfermer sur elle-même, éviter le repli identitaire et s'ouvrir sur le monde extérieur. Donc à ce moment, et ça continue d'être mon obsession, il faut que l'Égypte fasse partie de la communauté internationale, il faut éviter le repli identitaire, il faut éviter des tentatives que vous avez eues au Soudan avec le Mahdi, des tentatives de l'extrémisme musulman, et cette ouverture sur le monde extérieur est extraordinaire. Donc j'ai essayé de faire partie de l'internationale socialiste. J'ai eu des difficultés puisque c'était un parti unique, on n'a pas été admis. J'ai voulu créer une internationale des partis africains avec la Tunisie et le Sénégal. Mais j'ai obtenu la présence de Willy Brandt, qui était le secrétaire de l'internationale en Égypte. Et j'ai toujours lutté pour cette ouverture de l'Union socialiste égyptienne avec les partis socialistes étrangers, que ce soit le Parti socialiste français, que ce soit les partis socialistes des différentes parties du monde. Et ce n'était pas tellement dans la mesure où je participais à l'idéologie de gauche, mais dans la mesure où, étant membre du bureau politique de l'Union socialiste, voulant absolument avoir une ouverture sur le monde extérieur, il était important que l'Égypte fasse partie de l'internationale socialiste. Il était important que l'Égypte puisse coopérer avec les autres partis socialistes, que ce soit le Parti socialiste indien, le Parti socialiste français, les différents
C'était
partis
C'était cette
socialistes.
Ouverture internationale qui
Cette ouverture
qui vous
internationale, si bien que je pense que Sadat a fait appel lorsque le ministre des Affaires étrangères n'a pas voulu participer au voyage de Jérusalem.
Oui, je crois que vos confrères ont décliné.
Il m'a fait appel à moi dans la mesure où, dans le cadre de ces dossiers, j'étais l'homme de l'ouverture du monde extérieur. Et le voyage à Jérusalem était une ouverture sur le monde extérieur.
Alors, vous témoignez de ces années de diplomatie auprès d'Anwar el-Sadat dans votre livre « Le chemin de Jérusalem ». Alors, comment s'est passé
Mais ce D'abord, j'étais le dernier à savoir ce sujet de ce voyage. J'étais appelé par le vice-président, qui est le président, actuel président Hosni Moubarak, pour me dire « Voilà, le président Sadat va aller à Jérusalem et il vous prie de préparer un discours qui va prononcer au Knesset. Pour moi, ça a été une surprise, une surprise d'autant plus grande que je me dis, mais comment voulez-vous, nous sommes en état de guerre avec l'État d'Israël, comment va-t-il faire un discours au Parlement de l'ennemi? Donc j'ai essayé de... Heureusement que j'avais toute une littérature des ouvrages de Moshe Dayan, des ouvrages des différents chefs israéliens, mais j'ai cherché à trouver des précédents dans l'histoire d'un pareil geste, d'aller au-devant de l'ennemi et de discuter avec lui. Évidemment, je n'ai rien trouvé. En plus, ils ont exigé que mon discours soit en anglais. Je dis, écoutez, l'anglais, c'est la langue que je possède le moins bien, c'est ma troisième langue, mais est-ce que vous permettez que je fasse appel à un ami qui va m'aider à corriger la langue? Pendant que je passais des nuits blanches, deux nuits blanches à préparer ce discours, j'ai reçu un coup de téléphone dans lequel il me dit, mais alors le discours, je dis, mais s'il vous plaît, donnez-moi encore une heure, je suis en train de le relire, je suis en train de le corriger. Non, vous téléphone pour autre chose, vous venez d'être nommé ministre des Affaires étrangères par intérim dans la mesure où, et vous allez accompagner Sadat à Jérusalem. Donc je rentre dans l'avion et je demande au président Sadat, alors le discours que je vous ai fait, vous en êtes satisfait? Il me dit, il est excellent. Bon, donc j'attendais à entendre mon discours. De première désillusion, le discours n'est pas fait en anglais, mais il est fait en arabe. En second lieu, il n'y a pas une seule idée, pas un seul mot, pas une seule phrase de mon discours qui se trouve dans le discours qu'il a prononcé. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que les chefs faisaient très souvent, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, avaient recours à différents groupes qui chacun préparait un discours, puis choisissait entre les deux ou trois discours, et très souvent, ils faisaient même un mélange des deux ou trois discours. Mais dans mon cas, non seulement il n'a pas choisi mon discours, mais il n'a même pas utilisé une seule des idées qui se trouvaient dans mon discours. Et je dois avouer que le discours qu'il a prononcé était nettement supérieur au mien, dans la mesure où il s'adressait à l'opinion publique internationale. Mon discours était un discours d'universitaire qui faisait une analyse plutôt académique sur qu'est-ce que nous cherchons et comment nous voulons la paix, alors que son discours s'adressait à l'opinion publique internationale dans lequel il faisait appel à la femme, à l'enfant, au désir de trouver une solution, une guerre qui était, en fin de compte, au détriment des différents peuples de la région.
Quels étaient vos rapports avec Anwar el-Sadat? Vous le rencontrez pour la première fois en 1954?
Non, je l'avais rencontré auparavant, mais je n'ai jamais eu de... Je l'avais rencontré bien avant, dans les années...
En 1955,
56, ouais. Je ne me rappelle plus, dans lequel nous avions un programme sur les Nations Unies.
Voilà, déjà les Nations Unies
et alors, il a commencé par me dire, mais enfin, vous venez me faire passer un examen. Je ne sais absolument rien sur les Nations Unies, est-ce que vous me donnez... Je dis, écoutez, ce n'est pas moi qui ai organisé cette table ronde. C'est la télévision, c'est la radio. Je ne me rappelle plus si c'était la radio et la télévision ou seulement la radio. Si vous voulez, on peut choisir des questions. Il me dit non, comment ça? Et j'ai tout de suite compris que c'est ce qu'il faisait, une mise en scène. Il possédait très bien son sujet et il a répondu à toutes les questions. Et donc, il avait préparé, mais la mise en scène qu'il a faite, c'était comment? Vous me prenez à l'improviste, je ne connais rien des Nations Unies. Et c'est là que je l'ai connu la première fois. Évidemment, les chefs d'État, il faut leur parler, si vous êtes en désaccord avec eux, il faut leur parler en tête à tête. Il faut éviter de les contredire devant un certain nombre de collaborateurs. Donc, il m'est arrivé souvent d'avoir des rapports de tête à tête avec le président et de lui expliquer mon désaccord avec certaines décisions. Et il acceptait. Il acceptait de discuter. Je me rappelle, pour prendre un exemple, je lui dis, Monsieur le Président, j'ai entendu dire que vous allez avoir les forces multinationales, parce que c'était un accord dans l'accord de paix, qui seraient au Sinaï et qui seraient des forces américaines avec un général de Fidji. Alors, vous ne vous rendez pas compte que l'opinion publique égyptienne va dire les Américains ont remplacé les Israéliens. Il faut une force multinationale véritable. Alors, tu me compliques la vie avec tes précisions. Si tu veux une force internationale, débrouille-toi, va la chercher. Vous savez que les Israéliens n'acceptent que des forces qui appartiennent à des pays qui ont des relations diplomatiques avec Israël. Alors tu vois, tu compliques tout encore. Débrouille-toi alors, va en Amérique latine, débrouille-toi. Et j'ai fait une tournée en Amérique latine, et c'est comme ça que j'ai obtenu la participation de l'Uruguay et de la Colombie Ensuite, après l'assassinat du président Sadat, j'ai obtenu la participation de la France, de la Grande-Bretagne, et c'était une véritable force multinationale, et c'était un point de vue symbolique, je pense que c'est extrêmement important. C'est une force qui est très limitée à 2000 hommes, mais il était important qu'elle soit vraiment internationale et qu'elle ne soit pas uniquement américaine.
Alors après l'assassinat de Nour el-Sadat, Hosni Moubarak vous reconduit dans vos fonctions de ministre d'État aux Affaires étrangères jusqu'en 91. Je vous propose, Monsieur Boutros Boutros-Ghali, de marquer une courte pause musicale et de poursuivre cet entretien dans quelques instants. Retrouvons Boutros Boutros-Ghali pour nous parler de son mandat de secrétaire général aux Nations Unies. En 1991, vous êtes élu à la tête de l'Organisation des Nations Unies et vous avez témoigné de cette partie de votre parcours dans un ouvrage « Mes années à la Maison de Verre ». Au début de votre mandat aux Nations Unies, vous lancez en 1992 l'agenda pour la paix. Quelle était l'idée principale de ce programme d'action, Monsieur Boutros Boutros-Ghali ?
Je pense que dans mon discours d'investiture, j'ai mentionné trois idées. La première idée, c'était 1. Il faut une action préventive avant que le conflit n'éclate. Ce n'est que plus tard que j'ai pensé à l'après-conflit, c'est-à-dire l'institutionnalisation de la paix. N'est-ce pas, les Nations Unies s'intéressaient uniquement à obtenir un cessez-le-feu, à obtenir un traité de paix, puis quitter. C'est une erreur. La difficulté, c'est une fois que le traité de paix a été signé, il faut l'institutionnaliser, il faut bâtir la paix, il faut éviter les rechutes. Donc c'est le peace building. Et dans le même ordre d'idées, au lieu, c'est comme la maladie, on peut faire une vaccination, se faire vacciner pour éviter le conflit. Donc c'est l'action préventive. Donc j'ai développé l'idée d'une action préventive, j'ai développé une seconde idée qui était extrêmement importante, qui toujours domine mon action, qui est cette fracture entre le Nord et le Sud, qu'il faut essayer de combler. Et une troisième idée qui a mécontenté les superpuissances, c'est la démocratisation. Il ne s'agit pas de démocratiser les États, il s'agit aussi de démocratiser les relations internationales ou de démocratiser la mondialisation. Donc, il faut démocratiser les États, dans la mesure où les États démocratiques sont moins tentés de faire la guerre, ce qui n'est pas tellement vrai, parce que, comme disait Tocqueville, les armées démocratiques aiment faire la guerre aux armées démocratiques. Mais quand même, une démocratie, il est plus difficile d'obtenir une démocratie, de faire la guerre avec une démocratie, que de faire la guerre avec une dictature. Donc, il faut démocratiser les États. Mais ce qui est un plus important, il faut démocratiser les rapports internationaux, il faut démocratiser la communauté internationale. Donc ces trois idées forces ont dominé mon discours d'investiture qui a eu lieu en décembre. Et ce n'est que plus tard que j'ai appris que le Conseil de sécurité allait se réunir le 31 janvier 92 au niveau des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Et à cette réunion, ils ont demandé au nouveau secrétaire général de préparer un rapport sur qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer la paix, pour donner une nouvelle dimension à l'action des Nations Unies dans le maintien de la paix. Et c'est là que j'ai écrit l'agenda pour la paix, dans lequel j'ai mentionné deux idées qui ne sont pas nouvelles, mais qui, dans le cadre des Nations Unies, sont nouvelles. C'est une action préventive en faveur de la paix, pour éviter les conflits, ce qu'on peut faire avant que le conflit n'éclate. Et en second lieu, une action d'institutionnalisation de la paix, une fois que la paix a été conclue, qu'on a trouvé un cessez-le-feu, surtout c'est le moment le plus difficile, il faut être là pour institutionnaliser la paix, pour créer des institutions qui, elles, vont préserver la paix. Donc c'est le peace building, c'est la construction de la paix. Ce sont les idées que j'ai défendues dans l'agenda. Et ce qui est plus important, et qui était une erreur de ma part, je parle maintenant d'une façon rétrospective, c'était de croire que les nations voulaient donner aux Nations Unies un rôle plus important, c'est-à-dire de gérer l'après-guerre froide. Or, c'était une erreur de ma part, parce que les États-Unis n'avaient nulle intention de donner ce rôle aux Nations Unies, et ils comptaient, eux, gérer la guerre froide, l'après-guerre froide, et garder les Nations Unies comme instrument à la carte, qu'ils pourraient utiliser de temps en temps, mais qui serait assez marginal par rapport à leur action. Donc, vous aviez le multilatéralisme que je prônais dans l'agenda pour la paix, et que je croyais qu'il était la volonté politique des grands États, ce qui était faux, et vous avez l'unilatéralisme américain d'autre part, qui pensait qu'ils avaient gagné la guerre froide, et qu'ils étaient appelés à gérer l'après-guerre froide, en instaurant les démocraties dans les différentes parties du monde, et dans la mesure où tous les États seront des États démocratiques, à ce moment, nous aurons la paix démocratique. Nous revenons à des idées d'Emmanuel Kant qui parle de la paix démocratique. Et c'est là mon erreur, où dans lequel il y a eu un premier malentendu entre les États-Unis qui, eux, ne tenaient pas du tout à prôner le multilatéralisme, à renforcer vraiment les Nations Unies, et le nouveau secrétaire général qui, lui, avait l'illusion qu'il était appelé à mener un rôle nouveau et de donner une nouvelle dimension aux Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix.
Pensiez-vous que l'Organisation des Nations Unies méritait de connaître une réforme de structure au lendemain de la guerre froide ?
Oui, évidemment, la réforme de la structure des Nations Unies était là, mais il s'agissait beaucoup plus d'une réforme administrative, de diminuer les postes de secrétaires généraux adjoints. J'en ai éliminé une douzaine, et de réformer l'administration. Donc vous aviez trois départements de problèmes économiques, de faire une meilleure coordination. Donc j'ai créé différents comités, sous-comités qui essayaient de réformer les Nations Unies. Mais mon souci était beaucoup plus de défendre la démocratisation des Nations Unies, c'est-à-dire faire appel aux organisations régionales. Donc c'est ma thèse de 49. Donc c'est une décentralisation. Démocratisation et décentralisation, ce sont deux concepts qui sont très imbriqués. Donc première idée. Seconde idée, faire appel aux acteurs non étatiques, aux organisations non gouvernementales, aux partis politiques. d'où la première fois nous avons tenu des réunions des organisations régionales, ce qui a été poursuivi par la suite par mon successeur. Ensuite, réunion des partis politiques. Nous avons tenu une réunion des partis politiques socialistes dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, cette idée de démocratisation des Nations Unies, j'ai essayé, en faisant appel aux acteurs non étatiques qui pourraient populariser les Nations Unies, puisqu'en dernière analyse, la charte commence par « nous, peuple des Nations Unies ». Donc, il ne s'agit pas seulement des États. Évidemment, les États...
Vous vouliez revenir à cet esprit des débuts de l'organisation.
Oui, ce serait la troisième génération des organisations internationales qui ne va pas sous-estimer l'importance de l'État-nation. L'État-nation va toujours dominer la scène internationale, mais à côté de l'État-nation, nous aurions d'autres acteurs qui sont devenus aussi importants que l'État-nation et qu'il faudrait obtenir leur coopération. Que ce soit les organisations non gouvernementales, que ce soit les parlementaires, que ce soit les partis politiques, les organisations religieuses ou les multinationales. Vous avez des multinationales qui sont aussi importantes que des États, qui sont bien plus importants que des États. Pourquoi ne pas les faire participer? Comment faire participer ces organisations? Ceci est un autre problème, c'est un problème technique, que ce soit à travers une nouvelle assemblée des générales ou que ce soit à travers les délégations qui vont participer. Mais je n'invente rien de nouveau. L'Organisation internationale du travail a trois représentants. Le représentant des forces ouvrières, le représentant du patronat, le représentant des États. Donc, chaque État est représenté par trois représentants. Donc, voici un précédent. Donc, on peut imaginer que l'État soit composé de quatre ou cinq représentants. Tout ceci, c'est préparer la troisième génération des organisations internationales qui nécessitera des années de travail, des années de transformation et qui ne se passera pas uniquement. C'est l'argument que je donne toujours. L'opinion publique internationale, vu les nouvelles technologies, est habituée à des solutions rapides. Il n'y a pas de solution rapide. Et ayant été un ancien professeur, j'ai dit, écoutez, s'il vous faut 4 années pour avoir une licence en droit, ou 7 ans ou 8 ans pour avoir un doctorat en droit, s'il vous faut 10 années pour être un bon médecin, alors imaginez-vous qu'est-ce qu'il vous faut comme nombre d'années pour transformer une organisation internationale, pour obtenir une culture de la paix, une culture de la démocratie. Ça ne s'instaure pas en 1 année ou en 2 ans. Ça nécessite des longues années de négociations. Donc la troisième génération des organisations internationales n'aurait pas lieu tout de suite. Elle pourrait avoir lieu par petites réformes, comme elle pourrait avoir lieu par une très grande réforme. Et vous avez alors des centaines d'instituts qui sont créés dans le monde, qui tous se sont penchés sur le problème de la réforme, de la transformation des Nations Unies.
Je vous propose, Boutros Boutros-Ghali, de marquer une courte pause musicale et j'invite nos auditeurs à nous retrouver dans quelques instants pour la suite de notre entretien.
Partager le savoir, c'est la découverte avec nos journalistes de la présence de la langue française dans le monde. Avec Christa Leuc, vous rencontrez les directeurs des alliances françaises. Avec Marianne Durand-Lacaze, vous vivez l'expérience et l'engagement des professeurs de française à l'étranger. Avec Françoise Thibault, vous visitez les universités du monde. Partagez le savoir en direct ou en médiathèque sur Canal Académie.
Nous retrouvons Boutros Boutros-Ghali pour nous parler de l'Égypte d'aujourd'hui. En 2002, vous avez publié aux éditions du Rocher « Démocratiser la mondialisation » un an après les attentats du 11 septembre 2001. Tout d'abord, quelle est votre vision de la mondialisation ?
Je vous dirais qu'il y a plusieurs mondialisations. Il n'y a pas une mondialisation. Vous avez la mondialisation de la maladie, vous avez la mondialisation du commerce, vous avez la mondialisation de l'immigration, vous avez plusieurs mondialisations. Vous avez une imbrication de ces mondialisations. Vous avez les mondialisations qui ont des vitesses différentes. Donc, voici une première remarque. Une seconde remarque, c'est que cette mondialisation n'est pas comprise par l'opinion publique et donne naissance à un repli identitaire. Et c'est une formule qui a été employée par un de mes amis, le professeur Dupuis, que depuis j'utilise régulièrement. nous sommes confrontés avec la dialectique du clocher et du satellite. Mmh. Et je dirais du minaret, pour dans le monde islamique, et du satellite. Le clocher, c'est le repli identitaire, qu'il soit un repli religieux ou un repli ethnique, ou même un repli sur le village, et une méfiance de l'autre, et qui a pour origine, je ne dis pas la principale origine, mais comme origine la mondialisation. Le citoyen moyen a peur de cette mondialisation. Il voit l'arrivée des Arabes dans l'Europe, l'arrivée des musulmans, ou réciproquement l'arrivée des Mexicains aux États-Unis. Donc on crée un mur entre le Mexique et les États-Unis. Donc cette peur, ce repli identitaire. Et en même temps, vous avez la mondialisation, qui est un phénomène qu'il est difficile à arrêter. Donc comment pouvoir expliquer à l'opinion publique que la mondialisation a des éléments positifs et qu'il faut participer à cette mondialisation? Une des participations à la mondialisation, c'est la participation aux Nations Unies. À partir du moment où vous êtes devenu membre des Nations Unies, c'est que vous êtes amené à vous intéresser en Égypte au problème du Nicaragua, au problème du Guatemala. Je me rappelle que je tenais une réunion avec la jeunesse du parti politique en Égypte, et vous aviez une jolie dame, une jeune demoiselle, qui s'est levée et qui a dit « Je ne comprends pas, monsieur le ministre, j'ai entendu dire par la presse que vous allez aller la semaine prochaine au Nicaragua. Vous ne pensez pas qu'il est plus important que vous occupiez de la guerre civile au Liban plutôt que d'aller au Nicaragua ? Où ça se trouve, le Nicaragua ? » Et toute la salle se met à rire, Nicaragua, etc. Je dis « Madame, vous avez posé une question extrêmement intelligente. Si vous voulez que le Nicaragua s'intéresse aux problèmes du Moyen-Orient, qu'il s'intéresse aux problèmes palestiniens, nous devons nous intéresser aux problèmes du Nicaragua. Et c'est ça la mondialisation. S'intéresser au monde extérieur, aux problèmes du monde extérieur, avoir un minimum de solidarité à l'égard du monde extérieur.
Alors, comment l'Égypte, en plein renouvellement, s'adapte-t-elle à la mondialisation?
Je pense que vous avez un repli identitaire qui existait toujours en Égypte face à la modernisation. Oui. Parce que mondialisation veut dire aussi modernisation, qui est naissance d'un extrémisme musulman. C'était les frères musulmans qui voudraient préserver face et qui confond mondialisation avec néocolonisation. Pour l'Égyptien moyen, la mondialisation, c'est une sorte de néocolonialisme. La mondialisation, c'est l'arrivée d'experts étrangers. La mondialisation, c'est la concurrence des produits étrangers. La mondialisation, c'est le fait que l'Égyptien est obligé de quitter le pays pour pouvoir trouver du travail dans les pays arabes ou pour pouvoir trouver du travail en Europe occidentale. À un certain moment, je m'occupais même du ministre de l'immigration. Vous aviez l'Égyptien qui émigrait était considéré comme un traître. Comment il abandonne la patrie? Il y a eu une évolution. Au contraire, on s'est rendu compte que l'Égyptien qui émigre, qui va au Canada...
Au Canada et dans les autres pays du monde arabe, il y a une forte immigration égyptienne dans les pays du Golfe.
...contribue au développement de l'Égypte. Donc, vous avez une évolution, mais elle est lente, dans la mesure où vous avez, mondialisation est considérée par certains comme un nouveau néocolonialisme américain, deux, mondialisation est considérée par d'autres comme une attitude anti-islamique. Donc ces deux phénomènes rendent la mondialisation ou le fait d'accepter la mondialisation, le fait de coopérer avec la mondialisation comme plus difficile.
Vous avez beaucoup réfléchi à l'interaction démocratie et développement. Pour étudier cette question, l'UNESCO a créé en 1998 un groupe de réflexion, le panel international sur la démocratie et le développement que vous avez présidé, qui existe toujours. Quelle est l'originalité de cette initiative?
Écoutez, c'est Federico Mayor, qui était à ce moment directeur de l'UNESCO, qui avait demandé à faire un rapport entre démocratie et éducation, démocratie et culture. Et à moi, il m'a demandé, je crois qu'il avait demandé à Delors, et il avait demandé à Pérez de Cuillar, à moi, il m'a demandé démocratie et développement. J'ai créé un panel international à différentes nationalités. J'ai insisté d'avoir un Chinois, un Japonais, un Russe.
Des personnalités venues du monde entier, pour réfléchir à cette question.
Et nous avons tenu pendant 2 ans de réunions sur les rapports entre démocratie et développement. Et pour aboutir à ce qu'il y ait un lien extrêmement étroit, la démocratie a besoin du développement et le développement ne peut avoir lieu sans démocratie. Et je vous dis, je me rappelle la période de Nasser qui était une période de repli, une période de fermeture où il me fallait 17 formalités pour pouvoir voyager. Alors imaginez-vous aujourd'hui un homme d'affaires qui est obligé de passer 3 mois à courir de bureau en bureau pour obtenir la permission de quitter le territoire. C'est impossible aujourd'hui. Donc vous avez besoin d'une grande liberté. Le développement entraîne l'arrivée des fonds étrangers, entraîne des possibilités de corruption. Donc vous avez besoin d'un système démocratique qui vous permet de discuter de la corruption. Donc on se rend compte de plus en plus qu'il y a un lien extrêmement étroit entre démocratie et développement, entre développement et démocratie. Et il s'agit de défendre cette idée qui a été reprise par différents instituts du développement démocratique. Évidemment, l'erreur consiste, qui a été très répandue, que en tant que secrétaire de la francophonie, je l'ai faite moi aussi, et en tant que secrétaire des Nations Unies, c'est de s'intéresser uniquement à l'assistance électorale et de croire qu'une fois que les élections ont eu lieu, d'une façon libre, on a créé la démocratie. C'est faux, parce que les élections, c'est un des aspects de la démocratie. Vous avez la liberté de la presse, vous avez l'indépendance du judiciaire, vous aviez le moyen de discuter de la corruption, qui sont des éléments plus importants que des élections libres.
D'ailleurs, l'Égypte s'ouvre à la démocratie directe. En septembre dernier, c'est la première fois que les Égyptiens élisaient leur président au suffrage universel direct. Ils se sont rendus par millions dans les bureaux de vote pour cette première élection présidentielle au scrutin pluraliste. Boutros Boutros-Ghali, est-ce le signe d'une ouverture démocratique profonde en Égypte ?
Écoutez, c'est le signe d'une ouverture pour la démocratie. Est-ce que cette ouverture est profonde ? Je ne suis pas capable de vous répondre, dans la mesure où il faudra plusieurs années pour que la culture démocratique puisse vraiment s'implanter dans le pays. Pour le moment, vous avez une liberté totale de la presse, qui n'existe nulle part, je n'ai jamais vu une liberté, une vingtaine de journaux qui ont paru et qui sont extrêmement violents, qui critiquent. J'ai vécu ça en tant que président de la Commission nationale des droits de l'homme, dans lequel on a dit que c'était une commission fausse, qui n'a aucune valeur, qu'elle a été créée pour faire plaisir aux Américains, qu'on m'a amené comme président de cette commission comme un fauteuil doré, un décor, et que je n'ai aucun pouvoir, etc. Ce qui est faux.
Oui, depuis 2004, vous êtes à la présidence de cette commission nationale chargée pour la promotion des droits de l'homme.
Oui, mais c'est une commission qui a été des difficultés quand on a tenu la fameuse conférence des droits de l'homme à Vienne en 1993. C'était moi qui présidais cette conférence. J'étais secrétaire des Nations Unies. En 1992, nous avons eu la conférence sur l'environnement à Rio de Janeiro. En 1993, nous avons eu la conférence sur les droits de l'homme. Et cette conférence-là a proposé la création d'un haut commissaire des droits de l'homme. Et à proposer, à ce moment, je me méfiais, parce que le mot « haut commissaire » a une connotation coloniale.
Oui, surtout dans l'histoire du Moyen-Orient.
J'aurais aimé, on n'a pas tenu compte de mon point de vue. Et en second lieu, cette commission est une commission consultative.
Alors, ses moyens d'action, quels sont-ils ? Donc, elle est consultative.
Mais ses moyens d'action visent surtout à mobiliser l'opinion publique du pays, en second lieu, à pouvoir avertir les gouvernements sur certaines erreurs ou certaines violations des droits de l'homme, et en fin de compte, à collaborer avec les organisations non gouvernementales. Quand on a créé cette commission en Égypte, j'ai eu 2 problèmes. Le premier, j'ai eu la méfiance des organisations non gouvernementales,
oui,
qui s'occupaient des droits de l'homme, qui avaient peur que nous allions faire une compétition ou que nous allions les éliminer. Donc il a fallu les convaincre, j'ai tenu des réunions avec eux, plusieurs réunions, pour leur dire, au contraire, nous voulons collaborer, nous voulons vous aider, ne nous considérez pas comme un ennemi. Et en second lieu, la méfiance des autorités gouvernementales, qui se disent, mais enfin, qu'est-ce qu'ils viennent s'occuper de nos problèmes? Comment se permet-il de visiter nos prisons? Donc vous avez eu un double effort. Un, convaincre les organisations non gouvernementales qui, elles, s'occupent, il y en avait une vingtaine en Égypte, qui s'occupent de la défense des droits de l'homme, que nous voulons coopérer avec elles. Nous sommes là pour les aider, pour les protéger. Et deux, convaincre les autorités, les différentes autorités administratives, qu'il est de notre droit de leur demander certaines questions. Ils peuvent répondre comme ils peuvent ne pas répondre. Mais nous posons la question. Et nous avions créé un centre de plaintes. Nous avons eu presque 3600 plaintes en première année, dans lequel on envoyait des lettres aux différents gouvernements. Enfin, tel fonctionnaire se plaint qu'il n'a pas été promu. Au début, on recevait peu de réponses. Par la suite, on a reçu des réponses plus nombreuses. Très souvent, les réponses sont brèves. nous l'avons mis en prison conformément à l'article tant de la loi telle, etc. C'est tout. Mais c'est déjà une première réponse. On nous a permis de visiter des prisons, on nous a permis de faire des remarques qui ont eu un effet. Et j'ajoute à ceci, c'est au point de vue égyptien. Mais au point de vue arabe, nous avons tenu une réunion avec les différentes commissions arabes des droits de l'homme. Une première réunion s'est tenue au Caire, une seconde réunion s'est tenue à Qatar. La troisième réunion doit se tenir l'année prochaine au Maroc. Donc, vous avez un contact avec les commissions, un contact avec les Nations Unies, un contact avec le Haut-Commissaire des droits de l'homme. Et donc, il y a un double effort. Il y a un effort qui est ouverture sur le monde extérieur, oui, à travers la Commission des droits de l'homme, et en même temps, réforme à l'intérieur, que ce soit dans le domaine judiciaire, que ce soit dans le domaine des élections, actuellement dans le domaine de la modification des réformes de la Constitution. Là encore, ce sont des recommandations qui peuvent ne pas être respectées par les autorités, mais nous le faisons.
Vous donnez votre
ceci avis. A une influence sur l'opinion publique. Ça amène l'opinion publique à participer, à s'intéresser à la vie publique, alors que les régimes autoritaires se débrouillent à éliminer l'intérêt de l'opinion publique sur les affaires politiques.
Il y a effectivement une forte attente de la société civile en Égypte. Que souhaitez-vous à l'Égypte de demain, aux générations futures ?
Écoutez, je pense que la nouvelle génération serait d'abord une ouverture sur le monde extérieur, accepter que les jeunes Égyptiens devraient ne pas hésiter à aller travailler ailleurs, que ce soit dans l'Europe occidentale, ou dans les pays arabes, ou même au Canada et en Australie, vous avez une immigration, c'est un premier point. Et un second point que je pense qui est extrêmement important, il y a un problème de lutte contre la tendance du repli identitaire, contre un certain fondamentalisme que vous retrouvez, et c'est ça l'erreur, que vous retrouvez dans toutes les religions. Vous avez un fondamentalisme hindou, vous avez un fondamentalisme chrétien, vous avez un fondamentalisme juif et vous avez un fondamentalisme musulman qui est en rapport avec le repli identitaire, qui est choisi, qui prend la religion comme élément pour justifier le repli. Vous avez le repli identitaire, peut-être le besoin de retourner dans son village et de refuser n'importe qui n'appartient pas au village, c'est le clocher. Le repli identitaire peut-être d'ordre ethnique, vous devez éliminer les bougnoules, les noirs, vous devez éliminer les Tutsis, ou vous devez éliminer les Hutus. Donc, le repli identitaire, prenez ce qui se passe actuellement au Soudan avec le Darfour, c'est un repli identitaire. Des Soudanais de Khartoum qui se considèrent comme arabes et qui considèrent que les Soudanais, et tous les deux sont musulmans, les Soudanais de Darfour sont des indigènes africains. Donc, c'est un rapport. Je ne dis pas que le repli identitaire est la cause première du fondamentalisme, parce que le fondamentalisme existait avant, mais le fondamentalisme existait face à la modernisation dans la mesure où la mondialisation avait une connotation coloniale. Aujourd'hui, le repli identitaire est en rapport avec la mondialisation.
Alors, au terme de cette émission, qui est tentée de dresser un petit peu le panorama de l'Égypte actuelle à travers votre action diplomatique et à travers votre vision du monde et les valeurs qui sont les vôtres, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir nous voir. Nous sommes ravis que vous ayez répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France et que vous êtes actuellement président du panel international de l'UNESCO. Et j'ajoute que vous êtes également président de la Commission nationale des droits de l'homme en Égypte depuis 2004.